On va passer à la deuxième intervention, celle de Coralie Doua. On continue dans la question de la génération, cette fois-ci en se déplaçant un petit peu dans le temps, puisque Coralie nous parle des années 2000. Écouter les Bérus, trouver Saraya et devenir punk, donc dans les années 2000. À toi, Coralie.
Merci. Du coup, je suis super contente de passer juste après, parce qu'en fait, ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire. Et... du coup, moi, ma question, c'était un peu... donc, on parle des années 80, voilà, la période faste hein, des Bérus. Mais est-ce que, en fait, après, donc dans les années 90, dans les années 2000, 2010, qu'est-ce qu'il en est, en fait ? Qu'est-ce que ça fait d'écouter les Bérus quand on est adolescent, mais plus tard, en fait, trop tard ? Voilà, donc on va voir. Donc, sur quoi je vais me baser pour vous parler de ça ? Sur des entretiens individuels que j'ai fait avec des personnes dans le cadre d'un mémoire de sciences politiques et puis ensuite d'une thèse. Et puis sur une discussion collective qu'on a fait à plusieurs sur le thème des Béruriers noirs. Donc, avec qui ? Avec cinq personnes qui se sont définies comme punk et ou se définissent toujours comme telles. Dont les âges varient actuellement entre 25 et 40 ans. Donc des gens qui sont nés au début des années 80 pour les plus vieux et au début des années, dans les années 90, fin des années 90 pour les plus jeunes. Voilà. Où ça se passe ? Dans un squat, dans une ville moyenne en France, et je pense que c'est important de le préciser aussi, parce que du coup, là, ce que je vais vous présenter un petit peu comme trajectoire, ça a peut-être ça de spécifique que c'est des punks qui sont aussi squatteurs et qui ont peut-être pas exactement les mêmes trajectoires que d'autres personnes punks qui vivent pas dans des squats. Ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est pas la bonne génération. Ils ont raté les années 80. Le groupe des Bérus est dissous, en fait, au moment où ils commencent à l'écouter. Donc, ils vont se reformer un peu après, mais à ce moment-là, ils le savent pas encore. Donc, pour les plus vieux, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, ils vont avoir la chance de voir les Bérus en concert lors de leur reformation. Mais pour les plus jeunes, c'est vraiment quelque chose qui appartient, on peut dire, à l'ordre du passé. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter les punks du village, avec cette super illustration. C'est en fait des personnes qui ont une trajectoire où ils grandissent dans des petites villes ou des petits villages, et ils se mettent à écouter d'abord les Bérus, puis du punk en général, et ensuite à devenir punk, à trouver leur raya, et... plein d'étapes comme ça qui vont être possibles d'abord par l'écoute de la musique et d'abord par celle de ce groupe. Les personnes avec qui j'ai fait des entretiens, il y a quand même des trucs qui reviennent. Ils se mettent pas à écouter les Bérus comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait un terreau fertile, on va dire, à la base. Il y a un truc qui revient souvent, c'est que c'est des personnes qui ont des pères qui sont qui parlent de politique à la maison, en tout cas. Ils regardent les infos, ils lisent des journaux et puis ils critiquent un peu le gouvernement. Et c'est un truc qui est assez masculin. Par exemple, j'ai fait un entretien avec le père d'une des personnes qui racontait bien qu'il voulait titiller l'esprit critique de son fils avec des discussions politiques, alors qu'il faisait pas du tout ça avec ses filles pour lesquelles il espérait qu'elles fassent un beau mariage et c'était tout. Donc il y a quand même un rapport assez masculin dans cette politisation qui arrive assez tôt. Deuxième point, c'est les idées antiracistes qu'on retrouve en fait et qui viennent parfois en fait de la culture chrétienne des parents ou de la famille. Et les personnes développent quelques idées antiracistes. Et dans certains cas, il peut y avoir aussi un début de rejet un peu de l'école. Donc tout ça, c'est vraiment très tôt, c'est au début du collège. Rejet de l'école parce que changement d'établissement, passage dans le privé, confrontation avec des règles qui semblent injustes. Donc il y a tout ce début de politisation qui ne se dit pas comme tel encore, qui commence à se structurer. Et donc c'est des personnes qui vont écouter les Bérus au collège lorsqu'ils ont 12-13 ans. Et en fait, la découverte de ce groupe, ça va vraiment être une porte d'entrée et une manière de structurer leur pensée politique aussi. Cet antiracisme qui commençait à sentir, ça va devenir de l'antifascisme. Et tout un tas d'idées qui étaient naissantes, en fait, avec les paroles des Bérus, vont pouvoir se structurer. Donc là, j'ai mis un petit extrait d'entretien avec une personne où je lui demande « Les Bérus, comment t'as connu ce groupe ?» Puis Nono, il me répond « Comment c'est arrivé dans ma vie ?» Et puis il me raconte, voilà, j'avais 12 ans, j'écoutais du hard rock, comme on disait à l'époque. Et puis au collège, je suis devenu pote avec un mec qui écoutait du punk, qui détestait le hard rock, et qui m'a donné une première cassette des Bérus, et qui m'a dit, en plus, je me souviens de ses mots, qui m'a dit, oh, quand t'écouteras ça, t'écouteras plus la merde que t'écoutes. Et puis, bah, il avait raison. Et enfin, ouais, quand j'ai entendu les Bérus, je me suis dit, putain, mais ça me correspond tout à fait, quoi. Enfin, c'est exactement ce que j'attends d'une musique. Et donc, ce qu'il dit, c'est, voilà, un petit son trash quand même derrière, un côté rageux, et puis un message, quoi. Enfin, c'est-à-dire quelque chose que je comprends. Un message que je comprends et qui correspond à une idée de révolte un peu politique que je commençais à avoir à cette époque-là. Et donc là, il y a un truc vraiment important quand même, parce que les Béruriers Noirs sont le groupe le plus célèbre de punk français et français. Ce qui permet en fait une intelligibilité immédiate en fait des messages et le fait qu'ils circulent. Il y a certaines personnes qui comprennent un peu l'anglais et qui se sont mis à écouter des groupes comme Crass ou autres, mais c'est pas accessible immédiatement à tout le monde leur message, alors que celui des Bérus, il circule immédiatement. Donc après cette première rencontre avec le groupe, donc à la période du collège, il y a la deuxième étape hein, dans cette ce qu'on pourrait qualifier d'une carrière punk, hein, cette trajectoire. Voilà, la deuxième étape, ça va être de se looker punk. Donc il commence à aimer l'esthétique, à regarder les pochettes, à aller acheter des bouquins qui racontent un peu des anecdotes sur les Bérus comme Contes cruels de la jeunesse. Ils se mettent à adopter le style vestimentaire et puis ils se font leur première crête au collège. Et donc là, c'est vraiment un moment marquant. En tout cas, toutes les personnes avec qui j'en parle s'en rappellent de ce jour vraiment où c'est une rupture, quoi. Et la crête symbolise vraiment la mise en adéquation de leur identité avec leurs idées politiques, leur position sociale, parce que c'est immédiatement un truc antifasciste. Donc après avoir fait ce style, donc là on est donc sur les punks du village, hein, qui sont dans leur petit village, tout seuls, ils se font leur crête tout seuls, comme ça, ils connaissent pas de punk autour d'eux. C'est vraiment, ils rejoignent justement la communauté imaginée dont tu parlais tout à l'heure, qui est transmise, qui est véhiculée par les Bérus, par ce qu'ils écoutent. Ils s'identifient à un mouvement et ils se disent, voilà, moi je me fais une crête, ça y est, je suis punk. Sauf qu'ensuite, il y a la deuxième étape, enfin l'étape d'après, c'est quand même qu'il leur manque leur raya. Donc là j'ai remis un petit bout d'entretien. Bah ça, à l'époque, tu vois, t'étais pas un punk si t'avais pas une raya. Une raya, c'est ta bande, quoi. Et t'es une bande de punk, quoi. Mais en plus, j'avais un pote de ma ville, tu sais, qui était plus vieux que moi, qui était un ancien punk, et puis justement, qui se foutait de ma gueule en disant « Bah, de toute façon, Nonoï, c'est pas encore un vrai punk parce qu'il a pas de raya. » Tu sais, t'es le seul punk de ta bande, t'es dans un village, t'es pas un vrai punk, t'appartiens pas à une bande de punk. Puis du coup, oui, moi, je voulais avoir une raya, quoi. Donc c'est vraiment, là on voit l'écho hein, de la chanson « Les rebelles des Bérus rejoignent notre raya ». Et il y a vraiment ce truc de vouloir répondre à cet appel et de dire « je veux rejoindre, je veux moi aussi trouver ma raya ». Et pour ça, il faut que je sorte de ma petite ville ou de mon village et il faut que j'aille dans une grande ville rencontrer des punks. Du coup, finalement, l'adhésion à cette communauté imaginée permet à ces gens de petites villes, petits villages, où ils n'ont pas forcément de perspective d'avenir là, ils veulent échapper à la trajectoire sociale qui leur est promise, voilà, s'ils restent dans la continuité de leurs parents, etc. Et ils vont vouloir se rendre en ville pour trouver leur bande. Au point que Nonoï, dont je parlais tout à l'heure, qui par exemple est accepté aux Beaux-Arts, et va dire « Non, moi je vais aller à la fac, parce que les Beaux-Arts sont pas dans la même ville, et dans la ville où il y a la fac, il y a des punks. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de les rencontrer. » Donc vraiment, cette volonté-là. Et en arrivant en ville, ce qui est marrant, c'est que après toute cette idéalisation en fait du mouvement punk qu'ils ont rencontré d'abord par la musique, qu'ils ont lu les DVD de concerts, etc. Ils idéalisent le mouvement et quand ils rencontrent des vrais punks pour la première fois, c'est hyper décevant. Et ils sont déçus, ils se disent ouais, en fait, c'est pas si politisé que ça. Les gens, ils sont complètement bourrés. Enfin, il y a pas de bon, ils sont déçus. Et il va falloir qu'ils attendent, en tout cas les personnes avec qui j'ai fait des entretiens pour vous parler de ça, ils attendent tous les deux un mouvement social pour finalement sortir dans la rue et renouer avec cette bande de punk et vraiment en être cette fois-ci. Donc pour la personne la plus âgée, ça va être le mouvement contre Le Pen au second tour en 2002. Et pour le plus jeune, c'est le mouvement de la loi travail en 2016. En tout cas, là, ce que je voulais montrer avec cette première partie, c'était vraiment comment finalement écouter les Bérus permet en fait à toute une frange de la jeunesse qui n'aurait pas rencontré le mouvement dans la rue, parce qu'il y a d'autres personnes hein, avec qui j'ai fait des entretiens qui ont grandi en région parisienne ou dans des grandes villes, ont commencé à fréquenter la zone, à traîner dehors avec des bandes et petit à petit ont adopté des codes vestimentaires et ça s'est fait comme ça. Mais pour eux vraiment la musique ça a été, et le groupe des Bérus qui était la porte d'entrée en fait, ça a été ce qui leur a permis d'échapper à leur milieu social et géographique. Donc pour la deuxième et dernière partie, je voudrais m'intéresser plus à la question générationnelle. Là, j'ai abordé en fait des personnes qui ont des âges, qui ont 10 ans d'écart, hein, en montrant les points communs dans leur trajectoire. Là, je voudrais montrer un peu les différences, parce que quand même, même si ça touche du coup des jeunes qui ont été adolescents dans les années 2000, ça les touche pas de la même façon selon les époques. Il y a des différences dans le rapport entretenu au Beru, dans le rapport entretenu au mouvement punk et à l'identité punk en général. Une première différence qui est marrante, c'est une différence entre les personnes les plus âgées avec qui j'ai discuté, qui quand ils rejoignent leur raya, au bout d'un moment, un des signes du fait qu'ils sont acceptés dans le groupe, c'est le fait d'avoir un surnom. Le surnom, c'est un truc hyper marquant chez les personnes plus âgées, voilà, qui traînent avec une bande. Donc, par exemple, je vous prends deux exemples, c'est Neneuil et Gaston. Donc, en fait, ces surnoms, ils sont donnés par les potes, donc ils témoignent du fait qu'on est membre du groupe, et ils reprennent en fait un défaut de la personne pour caricaturer un côté un peu péjoratif. Ce qui fait que la personne qui accepte ensuite ce surnom témoigne d'une sorte d'autodérision qui est quand même une valeur punk un peu importante. Donc par exemple Gaston, c'est en référence à Gaston Lagaffe parce qu'il est maladroit, ou Neneuil, c'est parce qu'il ferme un œil quand il a trop bu et du coup voilà, Neneuil. Donc c'est donné par le groupe et c'est voilà, ça y est, on a son surnom, on en est quoi. Et puis je peux évoquer rapidement, il y a un deuxième élément qui revient dans les trajectoires moi des personnes à qui je parlais, cette fréquentation en fait de la zone, s'afficher dehors publiquement, voilà, confronté avec son style vestimentaire, choquer le bourgeois dans l'espace public. Au bout d'un moment, il y a un autre signe aussi qui va revenir chez pas mal de monde, qui va être l'adoption d'un chien. Et qui se produit un peu de la même façon, c'est-à-dire que c'est pas un chien qu'on va chercher dans un élevage, même pas à la SPA, c'est un chien qu'on trouve dans la zone, dans la rue. Le chien vient à nous, il tombe du ciel, ou il est donné par quelqu'un, on le récupère, et finalement, il devient aussi un signe de cette identité, parce que voilà, il témoigne de toutes ces années passées dans la rue, voilà. On y a trouvé ce chien. Bon, c'était une parenthèse. Et du coup, la différence avec les générations plus jeunes, c'est qu'au lieu d'avoir un surnom, des personnes ont plutôt des pseudos. Donc le pseudo, à la différence du surnom, il n'est pas donné par le groupe, il est choisi par la personne. Et donc là, je vais prendre l'exemple de Zeppo, qui est l'un des punks du village dont je parlais tout à l'heure, et qui lui, en fait, va choisir son surnom, donc en référence directe à la chanson « Deux clowns » des Bérus, où c'est le clown blanc, donc il y a Rico, le clown rouge qui meurt en se pendant ou d'un coma éthylique selon si c'est dans la musique ou dans le clip, et il y a Zeppo, le clown blanc qui devient fou, et donc Zeppo va choisir ce surnom là à la fin du collège pour montrer son le fait qu'il est, voilà, il est punk, donc il a un surnom directement lié au Beru. Et en fait, le fait de choisir un pseudo, ça va être lié à sa pratique des jeux vidéo en ligne. Donc, il choisit un pseudo pour ses jeux vidéo en ligne et en même temps, il l'adopte dans la vraie vie. Il y a aussi une autre hypothèse un peu qui permet d'expliquer ce recours au pseudo, parce qu'en fait, les gens les plus jeunes, moi que je vois dans les squats, recourent de plus en plus au pseudo plutôt qu'au surnom. C'est aussi le fait que quand Zeppo arrive dans la ville où il veut rencontrer les punks, y a moins de bandes de punks qui traînent dans l'espace public. Ils ont ouvert des squats, ils sont dans les squats, ils ont le RMI et ils font plus la manche. Et du coup, c'est plus difficile d'aller rencontrer la bande. Donc ça, c'est une première différence générationnelle qu'on peut observer. Un autre truc qu'on observe, c'est qu'en fonction de l'âge des personnes, il y a un rapport qui est un peu plus distant au Beru. D'abord, il y a une découverte plus tardive. Alors que, par exemple, les plus âgés ont écouté les Berus très tôt, hein, 8, 9 ans, 12, 13 ans. Les plus jeunes vont les écouter plutôt vers 17, 18 ans. Et ils vont moins idéaliser le mouvement punk en tant que tel, et les années 80 en particulier, alors que chez les personnes qui sont nées au début des années 80, donc qui grandissent dans les années 90, il y a vraiment cette idéalisation des années 80, parce que c'est la génération immédiatement précédente, et il y a ce truc de bah, on a raté cette période dont on nous parle, on rencontre des gens dans la rue, dans les squats, qui nous parlent de ces années... voilà, idéal, de ces concerts géniaux, etc. Et on a raté cette période. Alors que chez les plus jeunes, finalement, bah, la distance chronologique se creuse. Il y a plus de temps cette admiration de cette période. Enfin, il y a aussi une découverte de la musique et des Berus en particulier qui passe par des médias qui évoluent. Avec l'évolution des technologies, où on passe des cassettes qui sont copiées des téléchargements sur Internet, ce qui fait un rapport assez différent à la manière dont on va écouter la musique, puisque c'est pas le même album qu'on écoute en boucle parce qu'on a trois cassettes, ça va être une chanson par-ci, une chanson par-là, et donc on a un rapport un peu plus distant à l'œuvre musicale. Malgré cette distance, on voit qu'il y a quand même une transmission qui reste hyper importante. Donc là, je vous ai mis un petit bout d'entretien collectif avec plusieurs personnes du squat, où il y a Maël qui est le plus jeune, qui dit moi je connaissais l'importance du groupe donc les Berruriers Noirs, c'était le truc français, le punk français, mais j'ai pas eu cette idéalisation, moi ça c'était surtout une porte ouverte dans le milieu, etc. Et il dit, je pense que le déclic qui m'a montré comment il était important ce groupe, c'est Neneuil qui m'a filé un bouquin sur les Berus. Et du coup moi je dis à Neneuil, ah ouais c'est marrant, t'as filé un bouquin à Maël, en mode puis Neneuil il dit bah ouais mais c'est mon fils. Et donc il y a vraiment cette idée de transmission, je veux dire on peut pas être plus clair dans ce truc de voilà, il dit c'est un petit punk, on va lui faire découvrir des trucs quoi. Et donc il vient dans le squat, bah tu vas lire ça et tu vas voir ce que c'était les Berus, et toi aussi il faut qu'on te transmette cette passion pour ce groupe. Donc il y a quand même des formes de transmission qui continuent même si elles se passent d'une autre manière. Et un dernier petit truc que je voulais dire, c'était aussi une évolution qu'a connue en fait l'œuvre musicale des Berus, hein, en passant un peu du No Future au Yes Future. C'est quelque chose qui a impacté le mouvement punk dans son ensemble, mais aussi les trajectoires individuelles des gens. En tout cas, ça fait écho à des trajectoires individuelles. Là, quand je mets vieux No Future et jeune Yes Future, quand on discutait à plusieurs des Berus et je leur demandais c'est quoi vos chansons préférées, il y a vraiment un clivage hyper important entre les personnes qui vont avoir 40 ans et qui vont dire moi je préférais la période la plus sombre des Berus avec des morceaux comme Noir les horreurs ou Pavillon 36 ou voilà des trucs. Et puis les personnes plus jeunes qui vont dire moi je préfère justement des chansons comme Empereur Tomato Ketchup parce que c'est plus festif, etc. Et il y a ce clivage en fait entre une réception de l'œuvre musicale qui va pas être la même selon les âges. Et où finalement, peut-être que l'un des héritages des Berus qui est le plus prolifique, on va dire, c'est le côté Yes Future, la transmission de certaines valeurs d'auto-organisation, de do-it-yourself, des idées anarchistes, etc. Et pas justement ce côté nos futurs qui semble plutôt, en tout cas dans le squat, moi où je faisais mes entretiens, plutôt en voie d'extinction. Pour conclure, c'est que par la forte circulation qu'il y a eu de l'œuvre des Berus, donc à la fois par la diffusion de la musique, mais les DVD, les concerts filmés, les livres, etc., ça a permis en fait de toucher des adolescents jusque dans les années 90, 2000 et d'avoir un sens fort pour eux dans leur trajectoire, et y compris des jeunes qui grandissent en milieu rural et qui n'auraient pas eu accès à cette culture-là s'il n'y avait pas eu cette diffusion de support culturel qui était venu à eux. Et donc on a une jeunesse actuelle qui est devenue punk par l'écoute de ce groupe. Et que l'héritage des Berus, on voit qu'il est encore vivant aujourd'hui, avec, dans les free parties, etc., beaucoup de reprises de morceaux des Berus dans d'autres styles musicaux ou même dans du rap. Et je pense que on pourrait encore étudier l'influence que pourraient avoir ces textes sur les adolescents d'aujourd'hui, et je suis sûre qu'on trouverait des trucs intéressant. Merci.
Merci Coralie. Je pense qu'il est extrêmement intéressant ce passage par la génération suivante. Effectivement, il manque le témoignage de des générations 2020. ça sera intéressant de poursuivre l'enquête. J'espère peut-être que tu le feras. En tout cas, merci pour cette présentation. Et donc, on ouvre aux questions, si vous avez...
Bonjour. Ça va être une question un peu psychanalytique, parce que je sais pas si je me prétends punk, mais vu que je me retrouve dans les chansons de Luc et Solveig et que je suis membre de Peintre, ben ça m'interroge. Je voulais vous demander, donc vous avez mis en avant 5 témoignages, mais combien dans votre thèse vous en avez réalisé de facto? Et si vous avez fait le choix de vous focaliser sur entre guillemets des punks qui vivent en squat, ou si vous avez aussi fait dans vos entretiens des exemples de, je vais un peu parler de moi, des exemples de petits bourgeois qui ont découvert les Bérus, qui ont eu du plaisir, qui ont fréquenté ces concerts et qui, par la force des choses, aller dans des squats sans jamais adopter le mode de vie et sans jamais ramener un chien dans la rue parce que papa et maman auraient pas voulu. Voilà. Je le dis avec un peu d'ironie, bien sûr.
Alors, en fait, c'est des entretiens que j'ai réalisés d'abord dans le cadre d'un mémoire, et ensuite, ma thèse, je l'ai commencée il y a 3 mois. Du coup, je suis en train de faire des entretiens. Dans mon mémoire, j'avais étudié un seul squat. Donc, j'avais essayé de faire avec le maximum de personnes. J'ai pas fait tout le monde non plus, hein, mais le maximum de personnes que j'ai pu. Effectivement, il y avait des gens qui étaient pas du tout punk, qui étaient dans ce squat. En fait, c'était pas mon but hein, de m'intéresser au punk à la base. Je voulais juste m'intéresser au squat. Seulement, en fait, en m'intéressant au squat, je me suis rendu compte que c'était tellement important pour les gens dans ce lieu que j'étais obligée de passer par là, en fait. Et pour les gens qui ne se disaient pas punk, en tout cas, c'était un sujet hyper clivant. C'est-à-dire que punk, au bout d'un moment, c'est un qualificatif pour valoriser quelqu'un ou le dénigrer selon du point de vue où on se place. Ouais, eux, de toute façon, c'est des punks. Voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec certains de leurs comportements. Et donc, en fait, c'était un truc hyper clivant au sein du squat. Et c'est-à-dire que, en tout cas, les gens qui n'étaient pas de cette culture étaient obligés de se positionner par rapport à elle, en tout cas.
C'est une question plutôt à propos de vos entretiens avec les jeunes punks. Comme vous l'avez dit, avec les vieux punks, il y avait encore cet aspect très présent de garde-clocher. Par exemple, ouais, ça c'est mieux que ton hard rock de merde. Ou je sais par exemple que ma mère était une gothique, et elle, bien sûr, donc les gothiques détestaient ce que faisaient les métalleux ou autre truc comme ça. Mais est-ce que c'est encore cette identité est encore très très présente aujourd'hui chez les jeunes punks ou pas? Parce que on a maintenant une conception de la culture qui est plus omnivore qu'élitiste. Mm. Et par le fait d'Internet, voilà, on a accès à plus de choses. Est-ce que du coup, cet effet de j'écoute ça que de ça, ça existe encore ou pas en fait?
Bon, je voudrais pas improviser complètement non plus. je suis d'accord, je pense que moins en tout cas. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les vieux punks essayent de transmettre cette idée-là aux jeunes. Après, ça marche pas forcément, je pense. Que peut-être ils sont plus éclectiques.
Bon, écoutez, merci, c'était très intéressant. Encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent après, hein, on peut toujours en rediscuter plus tard dans la journée et demain.